Votre radio vous propose chaque après-midi, du lundi au vendredi, 3 heures de découverte. De 13h à 16h, partez à la découverte de recettes, des femmes et des jeunes qui se distinguent. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants, regards d'avenir et points de vue des jeunes. Laissez-vous guider par des balades en zigzag, un zeste de culture et beaucoup de musique. Nous répondons également à vos questions. 13h, 16h, découverte, le cocktail de l'après-midi sur Radio Okapi.
Quels sont les dangers des lotissements hors normes? Que je le disais tout à l'heure, plusieurs maisons à Kinshasa et dans d'autres provinces sont construites dans des quartiers peu ou mal urbanisés. Vous verrez, vous allez trouver des belles villas qui s'élèvent dans des quartiers sans caniveau. Il n'y a pas de caniveau pour permettre l'évacuation des eaux des pluies. En plus, on y trouve des avenues, des routes en cul des sacs. Voilà, vous entrez, mais après, il n'y a plus d'issue, c'est bloqué quelque part. C'est le cas, par exemple, à des quartiers Beauvent, à GB, Météo, à Kinshasa, et même la ville de Bukavu aussi connaît cette situation. Alors, quelles sont les normes de lotissement d'un quartier et comment sauver, par exemple, corriger voilà les erreurs dans les quartiers mal urbanisés? Deschaux Ngandou est architecte. Bonjour Deschaux. Alors, nous parlons des dangers des lotissements hors normes. D'abord, c'est quoi un lotissement?
Ok, merci beaucoup, Jody, pour l'invitation. Et, pour répondre à cette première préoccupation, je voudrais, de façon un peu plus large, expliquer, partir de la genèse de création des villes. Que lorsqu'on arrive à créer des villes, ou plutôt lorsqu'on se met à créer des villes, cela n'est pas tellement différent de lorsqu'on se met à concevoir une maison. C'est-à-dire qu'il y a des parties qu'il faut respecter, il y a des éléments qui constituent l'essentiel d'une ville qu'il faut faire entrer en ligne des comptes avant de pouvoir dessiner une ville. C'est-à-dire que par rapport à la taille actuelle de la population, on s'est dit, bon, une ville doit avoir une partie pour le travail, une partie pour les repos, il faut des espaces de récréation, il faut des équipements socio-communautaires, bref. Tous ces ensembles d'équipements, tous ces ensembles d'éléments constituent, entrent en ligne de compte plutôt des créations des villes. Et au fur et à mesure que la ville prend des dimensions par contre de la croissance démocratique, il y a des lotissements qui se créent. Des lotissements, c'est-à-dire des agglomérations qui s'ajoutent, des quartiers qu'on est en train de créer pour pouvoir loger décemment les populations. Donc, à la taille de la proportion, ou plutôt à la taille, j'allais dire, par rapport à la taille, ou plutôt à la croissance démographique, correspond aussi la morphologie, ou plutôt l'expansion de la ville. Mais généralement, ces lotissements, c'est-à-dire ces nouveaux quartiers, ces nouvelles agglomérations qui se créent, qui s'ajoutent à la conception initiale des villes, et comme je disais, généralement, ces nouvelles agglomérations se créent dans des périphéries, c'est-à-dire dans des quartiers qui sont aux limites des villes. Mm-hmm. Mais il y a aussi d'autres agglomérations qui se créent au-dedans même du noyau central des villes. C'est-à-dire qu'il y a des espaces qui arrivent à être désaffectés de leur occupation première pour être lotis, c'est-à-dire destinés à la distribution des parcelles. C'est le cas généralement de ceux qui autrefois constituaient les champs de tir dans des camps militaires. Parce qu'on trouve pas encore, on ne trouve plus l'importance d'avoir des champs de tir dans des camps militaires. On s'est dit, bon, il faut désaffecter ces espaces, les lotir, c'est-à-dire procéder à la redistribution des parcelles.
D'accord.
Par exemple,
alors des Songandou, la ligne téléphonique n'est pas très très bonne. On va vous changer des lignes tout à l'heure. Donc et puis nous pensons que cela va s'améliorer. Nous rappelons que vous êtes architecte. Avec vous, nous parlons aujourd'hui des dangers des lotissements hors normes. Alors des questions et préoccupations, appelez au 081 890 63 94, écrivez-nous également à service@radiocapi.net.
Au Capi danse du mercredi à jeudi de 21h à minuit, le vendredi de 23h à minuit et le samedi Megamix de 19h à minuit. Au Capi danse New Wave, tous les mercredis, de 21h15 à 22h, c'est la découverte des nouveaux talents, des nouveaux sons, des Congolais d'ici et d'ailleurs.
Bien, nous parlons des dangers des lotissements hors normes avec Deschaux Ngandou, architecte. Deschaux, vous êtes là?
Oui, merci. Je reviens sur ce que j'étais en train d'expliquer en grande ligne.
Oui.
Je parlais de la création des villes qui n'est pas totalement différente de la conception d'une maison. C'est-à-dire mm-hmm. que lorsqu'on se met à créer une ville, on tient compte des éléments essentiels, des piliers qui font qu'une ville puisse en être une. Je parlais de l'espace des récréations, j'ai parlé des quartiers résidentiels, des cités industrielles, des espaces de loisirs, tout ça. Mm-hmm. Et cette création est fonction, lorsqu'au moment où on se met à créer la ville, est fonction de la taille de la population en ces temps-là. Mais vous savez, lorsqu'on dit que construire, c'est prévenir, on s'est dit qu'aujourd'hui, demain ou après-demain, cette ville, la croissance démographique étant, n'aura toujours pas à contenir cette taille de la population qu'elle a maintenant. Il faut projeter l'avenir. C'est ainsi que on arrive à faire un schéma directeur. C'est-à-dire, on tient compte de l'expansion de la ville après 15, 20, 30 ans. Et au fur et à mesure que la ville croît, il y a des lotissements qui s'ajoutent, c'est-à-dire des nouveaux quartiers, des nouvelles agglomérations qu'on est en train d'ajouter pour faire l'extension de la ville. J'étais en amont. Et en aval, je me disais que ces agglomérations-là, ces lotissements ne se font toujours pas dans des périphéries des noyaux centrales de la ville. Il y a aussi certains espaces qui arrivent à être désaffectés. J'ai donné les cas, par exemple, de champs de tir dans des camps militaires. Pour besoin des causes, on s'est dit que non, voilà, pour le moment, ce n'est plus nécessaire d'avoir des champs de tir dans des camps militaires. On peut procéder à la redistribution des parcelles sur ces espaces-là.
Oui, des Songandou.
Un lotissement en interne.
D'accord.
Il y a aussi les cas, par exemple, des cimetières qui ont atteint, en fait, qui répondent désaffectés, où on ne peut plus continuer à enterrer les gens. Si on ne fait pas de ces cimetières-là, par exemple, de lieux touristiques, on peut aussi procéder au lotissement de ces cimetières-là.
D'accord.
Il y a autant d'espaces comme ça en interne qu'on peut lotir, tout comme en externe aussi.
Mais quelles sont les raisons qui font qu'on a souvent des quartiers mal urbanisés, des quartiers qui naissent spontanément. Vous trouvez des belles maisons, mais il y a pas, les routes ne sont pas très bien tracées, il n'y a pas des caniveaux, il n'y a pas des infrastructures sociales de base, comme vous l'avez dit tout à l'heure.
Effectivement, parce qu'il y a des préalables. Lorsqu'on se met à créer de nouveaux quartiers, comme je l'ai toujours dit, lorsqu'on fait l'urbanisme, ce n'est pas pour les bétons, ce n'est pas pour les arbres. C'est-à-dire qu'on ne procède pas à la redistribution pour que les gens se mettent tout simplement à construire. Il y a des préalables. On doit tenir compte, par exemple, que au fait, ce sont des êtres humains qui vont habiter dans ces quartiers-là. Il faut commencer par créer des réseaux d'électricité. Ça, ce sont les éléments essentiels qui font qu'une ville puisse en être ainsi. Les minimums nécessaires. Il faut tenir compte des réseaux d'assainissement. C'est-à-dire comment on va évacuer les eaux dans ces quartiers, comment on va évacuer les déchets. Il faut tenir compte des réseaux de distribution d'eau potable. Il faut aussi tenir compte de la voirie urbaine, les routes primaires, les routes secondaires, les routes tertiaires. Alors, lorsque ces préalables-là, ou plutôt ces conditions-là, sont remplies, en ce moment-là, on peut maintenant procéder à la redistribution des parcelles. Et puis, c'est dire que ces quartiers que nous sommes en train de faire, ces lotissements que nous sommes en train de mettre en place, c'est pour accueillir quelle catégorie sociale de la population. Alors, selon ces analyses-là, on peut se dire que nous faisons des parcelles de 50 x 50, faisons des parcelles de 30 fois 30, faisons des parcelles de X fois Y. Alors, lorsque ces normes-là sont respectées en ce moment-là, les gens peuvent se mettre à acheter, à construire. Et la construction aussi, comme vous le savez tous, parce qu'on l'a toujours dit, la construction répond aussi à certaines normes urbanistiques. Vous ne pouvez pas vous mettre à construire des gratte-ciels dans un lotissement qui est destiné à accueillir des maisons plein pied, par exemple. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas et nous constatons que, au fait, lorsqu'on procède à un lotissement, c'est des petites avenues, il y a absence de tous ces réseaux-là et directement, on procède à la redistribution des parcelles et cela, justement, commence à produire des conséquences néfastes.
Voilà. Nous avons un auditeur nous a écrit, Justin Mukunde à Mupandi, il est à Ouvira. Il dit ceci, lorsqu'il y a des quartiers mal urbanisés, on impute la faute aux services étatiques, notamment les cadastres et l'urbanisme et Habitat, qui donnent les documents, qui octroient des terres et des documents à des endroits inappropriés à la construction et donnent aussi l'autorisation de bâtir.
Oui, je donne raison à moitié à l'intervenant de tout à l'heure, parce que vous savez, la loi dit que l'État, les sols et le sous-sol appartiennent à l'État. C'est l'État qui est le propriétaire du sol et c'est l'État qui en est aussi le propriétaire du sous-sol. L'État intervient dans ses pratiques à travers son gérant. Les gérants de l'État, c'est les ministères des Affaires foncières. Et toutes ces normes, toutes les normes ici, toutes ces réglementations sont censées être connues par le ministère attitré, parce qu'il y a des experts, il y a des géomètres là-dedans. Il y a ces ministères engagent des ingénieurs, des architectes qui sont les experts par excellence pour les dessins, pour la conception des villes, la conception des lotissements, des nouveaux quartiers. Et ils le savent très bien qu'en fait, on ne peut pas procéder d'emblée par la redistribution des parcelles tant que ces normes requises ne sont pas encore établies. Mais si aujourd'hui, il y a l'absence de tout cela, il est vrai que la faute, en un premier temps, incombe à l'État qui n'a pas fait respecter tout cela. Mais en aval, il faut aussi que la population puisse être aussi avertie. On dit qu'un homme averti... mieux vaut plutôt qu'être dans l'ignorance. Être averti, c'est quoi? C'est dire que est-ce que ce lotissement qui est en train d'être mis en place correspond à ce que nous avions appris, correspond à ce que on recommande, à ce qui est exigé. Parce que vous vous rendez compte que cela n'est pas le cas, alors il faut s'abstenir. Vous savez par exemple que il n'est pas normal qu'on puisse avoir un quartier qui n'a pas d'espace de loisirs. Il n'est pas normal qu'on puisse avoir un quartier qui n'a que des petites avenues de 3 mètres à gauche, à droite, et vous avez des difficultés pour que les deux voitures puissent se dépasser.
Oui.
Ce n'est pas normal qu'on puisse avoir un quartier où il n'y a aucun caniveau, il n'y a aucun collecteur d'eau, et pourtant il y a des maisons toutes couvertes en tôle, et il y a des débits lorsqu'il pleut. Il faut que ces eaux-là puissent être évacuées, acheminées quelque part. L'eau étant un élément corrosif très dangereux, s'il n'est pas canalisé, il va commencer à créer des têtes d'érosion. Ce n'est pas aussi normal qu'on puisse pas avoir de l'espace des cultes dans un quartier, de place commerciale. Vous savez, même l'école, ce n'est pas normal. Et vous trouvez aujourd'hui tout un lotissement, par exemple, sur des très grandes surfaces où il n'y a même pas une école maternelle. Or, la loi exige qu'un enfant d'une école maternelle ne doit pas parcourir plus de 300 km pour atteindre sa salle de classe. Alors, vous avez tout un quartier étendu où il n'y a pas d'école maternelle. Et vous savez aussi qu'actuellement, par exemple, il y a des communes tout entières où vous ne trouvez pas une piscine. Hein? Et comment vous destinez, par exemple, la population, plutôt la jeunesse de ces quartiers-là à s'épanouir sur le plan de leur santé, de leur physique?
Alors, Deschaux, quels sont les dangers des lotissements hors normes? Lorsqu'on construit de cette façon, sans respecter les normes, quels sont les dangers qui nous guettent?
Oui, les dangers sont multiples, mais les plus visibles que nous constatons tous, c'est que généralement, après un certain nombre de temps, plus les maisons croissent, plus il y a des problèmes d'érosion qui commencent à naître. Vous constatez que les collectifs des habitants commencent à se réunir, commencent à remplir des sacs avec des sables pour les entasser sur les routes. Ce n'est pas une solution très durable, parce que l'absence des collecteurs constitue un danger pour les maisons qu'on est en train de construire, étant donné que l'eau qui est permanent, et nous sommes dans un pays tropical où nous avons plusieurs mois de saison de pluie, ce qui fait que les sols sont constamment sollicités. Actuellement, il pleut presque chaque jour. Et si cette eau-là n'est pas canalisée, elle va se pouvoir se frayer un chemin, un passage. Et les passages que l'eau s'est créé, c'est généralement les débits des têtes d'érosion. Et lorsqu'il y a érosion, les maisons qui sont construites pour lesquelles on a dépensé beaucoup d'argent sont menacées et la plupart sont même englouties d'un jour à un autre.
Voilà, nous avons les érosions. Quels sont les autres dangers?
Les autres dangers, c'est que généralement, les pécuniers ayant pris les déchets, vous trouvez que dans ces lotissements-là, il y a des parcelles de 15 x 10, il y a des parcelles de 10 x 10, des toutes petites parcelles, et on confine les familles dans des conditions qui ne sont pas appropriées. Et comme tout le monde pense qu'avoir une parcelle, c'est une finalité en soi, on s'est dit, ok, j'ai ma portion de terre, je me construis une maison, mais ces maisons-là engloutissent pour la plupart les parcelles. Vous trouvez une maison qui occupe, ou les bâtis occupent 90% de la servitude totale de la parcelle, ce n'est pas normal. Or, on doit avoir beaucoup plus d'air libre que de la surface bâtie dans une parcelle. Et cela contribue à faire aérer la maison. Cela contribue à l'épanouissement mental, physique des enfants. Il faut avoir de l'espace dégé, il faut avoir de l'espace de détente, il faut avoir des espaces récréatifs. Mais vous constaterez que dans ces quartiers-là, tout ça manque. Et lorsque ça manque, ce sont des problèmes sur la santé, mais lesquels problèmes ne se manifestent pas tout de suite. Au fur et à mesure, on commence à avoir des maladies respiratoires, mais on oublie que les causes profondes sont liées au fait qu'on a habité le plus longtemps possible dans des lotissements qui ne répondaient pas aux normes et on était étouffé dans des villas, dans des maisons.
Voilà, on était étouffé dans des villas et dans des maisons. Il y a plusieurs quartiers comme ça qui sont nés de manière spontanée, ben voilà, et qui ne respectent pas les normes d'urbanisation. Alors, comment est-ce qu'on peut corriger cela? Est-ce qu'il est possible de corriger cela aujourd'hui parce que les gens ont déjà occupé leurs espaces, ils ont construit des maisons. Parfois, il y a pas de caniveau, il y a inondation. Maintenant, comment corriger tout cela?
Vous savez, tout ça donne ce sont des problèmes casse-tête et pour l'État qui les a créés d'une manière ou d'une autre et pour les habitants eux-mêmes. Au grand mot correspond bien sûr des grands remèdes. Vous savez, il faut maintenant restructurer ces quartiers-là. La restructuration pour des quartiers qui ne sont même pas précaires, mais des quartiers constitués de maisons en dur, des maisons comme on les appelle des maisons durables, des maisons en étage, c'est très difficile parce que en fait, faut-il dire qu'il faut raser pour refaire? Ça, c'est une approche. Il y a des tendances maintenant qui se dessinent. Il y a ceux-là qui sont pour faire de la chirurgie urbanistique. C'est-à-dire il faut raser, délocaliser, reconstruire et reloger ces gens-là dans les normes. Mais c'est une solution très coûteuse qui demande beaucoup de moyens. Et je me demande, dans les cas d'espèce, notre État, avec tout ce qu'il a comme situation au devant des lits, est-il en mesure de procéder à une pareille solution? En fait, je me dis tout de suite là, non. Alors, il faut tout simplement conseiller pour le moment aux gens qui se plongent sur de nouveaux lotissements de pouvoir constater si les lotissements-là correspondent aux normes. Lorsqu'on est déjà dans la chose, il est très difficile, parce que casser par les propres moyens, on ne sait pas le faire et reconstruire. Attendre que l'État le fasse, ça va demander qu'on attende le plus longtemps possible. Donc c'est une préoccupation qui reste encore un sujet d'analyse, un sujet de recherche des solutions, devant permettre à ce que les gens arrivent à être bien logés, à bien habiter.
Voilà. Par exemple, dans la ville de Bukavu, on trouve beaucoup de constructions anarchiques. Il y a certaines parcelles où, pour entrer dans la parcelle, il faut passer par la parcelle du voisin. Donc, il n'y a pas d'issue. Il faut passer chez le voisin pour accéder à votre maison. Alors, pour des telles maisons, des telles situations, comment corriger cela?
Effectivement, ce n'est pas seulement à Bukavu, c'est dans la plupart des quartiers des nouveaux lotissements que la République est en train de connaître pour le moment. Il y a ces occupations anarchiques là qui battent leur plein parce que on veut coûte que coûte donner de l'espace aux demandeurs. Et lesquels demandeurs pensent que avoir une parcelle, quelle que soit sa dimension, c'est une fin en soi. Et maintenant, il est difficile, comme je venais de le dire tout à l'heure là, de trouver une solution pratique et courante dans l'immédiat. Mais il faut seulement conseiller aux gens pour que ceux qui demain ou après-demain se trouvent devant des sollicitations pareilles qui n'embrassent pas aveuglément ce genre de lotissement, mais plutôt qu'ils cherchent à voir si les conditions telles que je venais d'en énumérer là sont respectées. Est-ce que au préalable il y a les réseaux d'électricité, est-ce qu'il y a les réseaux d'assainissement, est-ce que il y a des espaces de loisirs qui sont créés, est-ce qu'il y a des espaces pour la construction des maisons des cultes qui sont prévus, est-ce qu'il y a des espaces pour la construction au minimum des écoles maternelles qui sont prévus, est-ce qu'il y a des centres commerciaux. Est-ce que les servitudes des avenirs sont à même de faire le dépassement de 2 véhicules au minimum? Lorsque vous vous rendez compte que, ok, nous sommes en train d'assister à pareil lotissement, à ce moment-là, vous pouvez vous jeter. Mais si on vous présente un échiquier où il n'y a que de 20x20, des petites avenues, ne cherchez pas à vous plonger parce que à la longue, ça va se retourner contre vous.
Voilà, la langue, ça va se retourner contre vous. Mais il y a plusieurs quartiers mal urbanisés qui sont nés de manière qui spontanée. L'État n'y est pour rien parce que les gens ont occupé de manière anarchique les espaces et ils se sont mis à construire sans recourir aux spécialistes.
Oui. Ici, je voudrais établir une différence entre les lotissements initiés par l'État et des quartiers précaires où des populations en mal de logement s'emparent d'un espace soit abandonné par l'État ou plutôt des zones périphériques et commencent à squatter. Là, c'est une situation totalement différente de celle des quartiers ou plutôt des lotissements. Dans les cas des lotissements, il y a l'aval de l'État, il y a une démarche, mais malheureusement, ce que nous sommes en train d'épingler ici est que la démarche qui est initiée ne fait pas respecter les normes. Mais tandis que les quartiers précaires, comme les Pacajuma, comme il y en a beaucoup à Kinshasa, par exemple, là, c'est des gens qui sont en train de squatter. Ça, c'est un autre problème tout entier qui demande qu'un jour on revienne là-dessus. Mais pour les cas de lotissement, ça n'a rien à voir avec les squats ou plutôt les quartiers précaires que nous sommes en train de voir à travers toutes les villes africaines.
Voilà, donc ça c'est un problème. Alors vous dites que pour corriger, ça devient très difficile parce qu'il faut carrément raser ces maisons et les reconstruire.
Bien sûr, ça c'est comme je disais, c'est une approche des analystes catégoriques, mais il y a d'autres qui estiment que non, il faut une restructuration. Comment faut-il faire, par exemple, on a vu au Maroc, par exemple, parce qu'en fait, ce n'est pas une situation totalement congolaise, hein. La plupart des villes africaines connaissent des problèmes de lotissement inappropriés. La plupart des villes africaines connaissent des problèmes de quartiers précaires. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui même, on est en train de parler de comment on peut, à l'horizon 2020, arriver à avoir des villes sans bidon quartier, sans un quartier précaire. Donc ces problèmes sont généralement centraux, ce sont des problèmes continentaux, régionaux. À tel point que il y a des pays comme le Maroc, par exemple, ou comme la Tunisie, qui ont procédé, en fait, à ce que j'étais en train d'appeler ici à une chirurgication, en fait, à l'urbanisation chirurgicale. Ils ont totalement rasé, ont délogé les gens, ont reconstruit conformément aux normes et ont relogé ces gens-là dans des conditions de santé. Évidemment, ça demande beaucoup, beaucoup de moyens. Mais en fait, les problèmes, plutôt les pays africains, sont actuellement confrontés au problème des capitaux, à tel point que se lancer dans une gymnastique pareille n'est pas chose facile. Le Maroc l'a fait pendant une dizaine d'années, de 2004 à 2014 aujourd'hui, on ne trouve pas ce genre de quartiers, ce genre de lotissements au Maroc par exemple. Donc il y a deux pays africains qui se sont distingués, la Tunisie et le Maroc, à pouvoir prendre conscience à interdire et puis à procéder à la correction de la manière que je suis en train d'expliquer là.
Aimé Moulumba nous a écrit depuis Bounia. Il dit ceci, si vous voyez la façon dont la ville est construite et les avenues, comment elles sont tracées, c'est catastrophique. Ça c'est Aimé qui nous le dit depuis Bounia. Et il dit, c'est pourquoi nous demandons au service des tutelles de prendre un peu de mesure sur l'urbanisation ainsi que la construction anarchique, pour limiter les constructions anarchiques au bord des Nyamukawa. Voilà, c'est Aimé Moulumba depuis Bounia. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Aimé? Il nous dit qu'à Bounia, les villes, la manière dont la ville est construite et la manière dont les avenues sont tracées, c'est catastrophique.
Oui, c'est un constat général. Aimé a tout à fait raison parce que, n'étant pas à Bounia, mais nous sommes en train de vivre cela à travers d'autres villes de la République, le problème revient à ce que l'État prenne sa responsabilité. Que les temps soient stricts, qu'il s'agisse dans l'octroi d'autorisation de bâtir, qu'il s'agisse dans la création de nouveaux lotissements, l'État doit prendre les devants pour faire respecter les normes en la matière. Parce qu'il y a des exigences préalables. Il y a des normes qui sont établies pour que les gens arrivent à être logés décemment et à vivre, à mener leur vie de façon digne. Cela contribue à la longévité de la vie.
Voilà, cela contribue à la longévité de la vie. Aujourd'hui, s'il faut raser ces quartiers et reconstruire, vous dites que c'est difficile parce que ça demande aussi beaucoup de moyens. Il faut raser, avant de raser, trouver un endroit, préparer des maisons pour loger ces gens et raser et reconstruire. Ça exige beaucoup de moyens.
Bien sûr, ça exige beaucoup de moyens. Il y a très peu de pays africains qui se sont lancés dans cette gymnastique. Et en fait, pour le moment, il faut tout simplement faire de la prévention. La prévention, c'est vulgariser, conscientiser les gens tels que nous sommes en train de le faire, pour que les gens ne comprennent pas que partout où on a initié des lotissements, il faut se plonger, il faut chercher à trouver une parcelle. Il est vrai, actuellement, vouloir être détenteur d'un certificat parcellaire, c'est une fierté, c'est une avancée dans la vie, mais en fait, la finalité, c'est quoi? Avoir une parcelle où on est mal logé, ou plutôt... s'est contenté d'un bon logement. Ça, en fait, c'est ce qui doit être la préoccupation. Alors, la population doit bien réfléchir pour tenir compte de l'endroit où elle est appelée à être logée, à vivre, parce que la vie, c'est quelque chose de très précieux. Il faut savoir la protéger. Il faut savoir bien vivre pour pouvoir vivre longtemps.
Bien, merci Deschon Ngandou. Je rappelle que vous êtes architecte. Merci d'avoir participé à cette émission et bonne journée.
Merci beaucoup, jeudi, et à vous autant.